Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
20h passées de 12 minutes, le numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré au projet de loi sur les fake news. Son contenu, ses objectifs, ses limites. Et nous en débattons ce soir avec Gaël Duval, le fondateur de jechange.fr, proche de La République En Marche. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG, qui est en train peu à peu... pas à pas de se lancer.
Bonsoir monsieur Martel.
Cette semaine, Le Monde et Next Impact ont révélé les documents transmis par l'exécutif aux députés de La République En Marche concernant le projet de loi de lutte contre les fausses informations, aussi appelées fake news. On retient deux axes parmi ces propositions. D'abord celui de la transparence, donc plus de transparence. Il s'agit d'imposer, ou en tout cas d'essayer d'avoir plus d'informations de la part des plateformes comme Facebook, Twitter ou encore YouTube en matière de leur publicité, à la fois vis-à-vis des autorités, mais aussi des utilisateurs, d'où ça vient, comment ça marche. La seconde partie est davantage assimilable à un contrôle accru de la diffusion de l'information. Le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, verrait ses pouvoirs augmenter. Les internautes pourraient faire appel à un juge pour faire supprimer des contenus rapidement en période électorale. Pour commencer, Gaël Duval, vous êtes plutôt proche des positions de La République En Marche et du gouvernement. Est-ce que vous pensez que ces propositions vont dans le bon sens?
Elles vont dans le bon sens pour un premier point déjà, c'est qu'elles vont re-territorialiser et nationaliser la législation sur les plateformes. Je pense qu'il y a un vrai sujet très très important, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes en général, des GAFA et autres, ont une législation qui est plutôt gérée et régie par des règles internationales aux États-Unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple,
des règles américaines,
une vision américaine, donc des censures à l'américaine. Donc ça veut dire que vous avez le droit de à peu près dire n'importe quelle horreur sur n'importe quoi et insulter
mais
n'importe
pas
qui.
Mais en revanche, un bout de sein
et un tableau du 19e siècle
est censuré. Ouais.
Donc je pense que le vrai point qui est très très utile et très important dans le projet de loi quel qu'il sera, c'est que de toute façon, il ramène un peu le territoire et la nation et la vision nationale de notre point de vue là-dessus en haut de la piste. Ensuite, après, sur les fake news, c'est un peu compliqué parce que bon, déjà, la notion de fake news, elle est intrinsèque à l'histoire, aux médias, aux informations. Enfin, il y a une très jolie phrase de Napoléon qui dit que l'histoire est une succession de mensonges sur lesquels tout le monde est d'accord. C'est une réalité. Donc, il y a dans l'histoire eu des mensonges qui sont restés des vérités ou qu'on croit comme des vérités. Quand on creuse, en réalité, elles le sont pas. En revanche, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la multiplication des réseaux sociaux, la multiplication des plateformes et le fait que tout le monde puisse le faire n'importe quand, n'importe comment, nécessite effectivement, j'allais dire malheureusement, parce que c'est jamais super quand le législateur intervient sur ce genre de d'informations, mais elle nécessite quand même une intervention du législateur pour essayer de limiter l'amplification de ce phénomène et intervenir le plus tôt possible, particulièrement quand on sait que c'est totalement faux et que c'est totalement manipulé.
Et d'autres de Perse sur cette question?
Oui, non, mais c'est évidemment, y a une question qui se pose, et notamment en cas de période électorale, où effectivement, aujourd'hui, c'est quand même très simple de diffuser un contenu en payant quelques dizaines d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros avec n'importe quelle information auprès de gens qu'on cible, quoi. Et ça peut poser question. C'est le cas en Angleterre également, où on voit que lors des campagnes locales, on a le droit d'aller cibler n'importe quel parti politique, on a le droit d'aller cibler extrêmement précisément avec un plafond de dépenses chaque circonscription. Et on peut imaginer que ça permette une forme de manipulation qui peut poser question dans un cadre démocratique.
Donc ça veut dire que vous êtes plutôt d'accord sur l'idée de faire quelque chose. Et après, vous avez peut-être des divergences sur comment le faire.
Et exactement. Moi, je pense que ce qui est le plus inquiétant, la question de la transparence sur les plateformes, c'est une bonne chose. Je pense qu'on peut même imaginer aller plus loin. On ne sait pas aujourd'hui quelles sont les informations qui sont utilisées à notre propos pour nous afficher tel ou tel contenu sponsorisé. On ne sait pas si on est ciblé parce qu'on est jeune, parce qu'on est une femme, parce qu'on est une jeune femme noire,
parce qu'on habite à tel endroit, etc.
Et on devrait pouvoir avoir accès à plus d'informations à ce sujet sur la part des plateformes.
Il y a un mouvement là-dessus, sur la réglementation RGPD, sur des obligations qui sont faites aux plateformes de publicité aujourd'hui sur de la, ce qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire le fait d'avoir une publicité au moment où vous avez été sur un autre site. Généralement, ils vous expliquent pourquoi vous avez été bombardé et
harcelé. Quel est, selon vous, le problème, Elliot Lepers?
C'est toute l'habileté du gouvernement et c'est un peu toujours pareil. C'est que finalement, on a une mesure à peu près intéressante qui camoufle une autre mesure qui est absolument ahurissante, qui est celle de vouloir organiser une forme de censure potentielle d'État de n'importe quel contenu, notamment politique, et donc que l'État puisse se positionner.
Mais ça, vous y croyez
comme,
vraiment
comme c'est garant de qu'est-ce
l'État...
qui est vrai ou pas, quoi.
C'est moi, pas l'État ça, qui se positionne. La réalité, c'est que l'État donne les moyens à tout le monde, mais à tout le monde, c'est-à-dire pas que l'État, mais à tous les partis politiques, quels qu'ils soient, et n'importe quel citoyen, de lutter contre une fake news. Après, effectivement, il y a une logique qui est presque de censure, mais il y a un moment donné, c'est plutôt à quel moment tout ça va être mis en place pour qu'on va réagir suffisamment tôt pour que le faux reste du faux et que le faux ne devienne pas un vrai. Et le vrai enjeu, il est là pour tout le monde, il n'est pas là que pour le gouvernement, que pour le parti majoritaire, mais je pense qu'il y a plein de partis qui ont envie que des vérités soient, enfin des fausses informations soient pas transmises comme des vérités, et surtout avec la viralité où les gens l'ont lu, ils savent même pas trop. Enfin,
bon, Elliot Lepers.
Moi, j'écoute aussi ce que disent les journalistes, et notamment la presse indépendante. L'objectif de
le Sénégal national des journalistes aussi, qui a réagi,
voilà,
le SNJ,
réagit de manière très critique
tout récemment. Hein, sur
enfin, il n'a pas cette... dit grand-chose, il a juste dit qu'il était contre, mais ce qui est un peu naturel du
Je lis juste un bout du communiqué pour vous amener d'ailleurs à réagir. Le communiqué du SNJ cette semaine s'est construit sur une confusion entretenue entre plateformes Internet et médias professionnels d'information. Ce texte, qui dit vouloir protéger contre les risques de manipulation de l'information en période électorale, peut aussi devenir un moyen d'entraver le travail des journalistes professionnels, etc.
Ça existe déjà, pardon.
Moi, c'est ça qui m'inquiète particulièrement. L'objectif, c'est de restaurer la confiance dans les médias, dans le journalisme. Et pour y arriver, c'est pas la censure qu'il faut organiser, c'est au contraire permettre plus d'indépendance aux médias, donc permettre que les médias soient moins concentrés entre les mains d'une poignée de milliardaires. C'est revoir les aides à la presse, les subventions qui sont aujourd'hui, qui se comptent en dizaines de millions d'euros et qui vont de manière absolument indifférenciée dans tout un tas de presse qui colportent effectivement des informations qui ne sont pas vérifiées. Donc c'est comment est-ce qu'on refonde l'aide à la presse, comment est-ce qu'on garantit plus d'indépendance, comment est-ce qu'on garantit finalement plus de pluralisme. Et c'est comme ça qu'on peut restaurer la confiance dans les médias, pas en organisant une forme de censure.
Mais alors, là où le mot me gêne, c'est le mot censure. Ouais. Il n'y a pas une volonté de censure, il y a une volonté de donner les moyens à tout le monde de pouvoir lutter contre une information qui est jugée ou perçue ou comprise comme fausse.
Alors,
il n'y a pas une décision politique.
Voyons les moyens qui sont proposés pour entrer dans le gros du sujet. D'abord, il y a la question du périmètre d'application, de la période, notamment période électorale. Ensuite, il y a l'idée d'élargir les missions du CSA. Enfin, il y a la question de pouvoir demander, chaque individu peut demander à un juge civil des référés de décider l'interruption d'un média ou, en l'occurrence, d'une information qui serait fausse, en se prononçant dans les 48 heures sur la véracité d'une information, là où, je cite encore le communiqué du Syndicat national des journalistes, là où parfois, eh bien, pour vérifier ce contenu, il faut plusieurs mois d'enquête à ce sujet. Elliot Lepers.
Le risque, c'est d'aller vers une forme de simplification et c'est d'aller vers une forme de traitement un peu indifférencié où on va vouloir censurer, masquer plus de contenu par principe ou en voulant se protéger.
Par peur, ces plateformes, du coup, vont beaucoup plus fermer des comptes ou annuler des tweets ou des messages Facebook par peur de risquer des amendes.
C'est un peu ce qui se passe en Allemagne. On voit avec la nouvelle législation qui est entrée en vigueur en Allemagne sur les propos haineux et où effectivement les plateformes sont exposées à un système d'amende si elle ne supprime pas suffisamment tôt des contenus à caractère haineux. Et donc, il y a une forme de suppression comme ça massive de contenu. La question, c'est plutôt celle, pour moi, de l'anonymat et de la capacité d'identifier l'auteur d'un propos haineux et qui enfreint effectivement la loi. Mais c'est encore un autre sujet. Mais sur la question de la période électorale, je pense qu'en l'occurrence, il y a une loi à moderniser. Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour un candidat de publier de manière sponsorisée un contenu à moins de 6 mois d'un scrutin. Et c'est vrai que cette question, elle est assez hypocrite, quoi, parce que n'importe qui d'externe, un candidat peut quand même, d'une certaine manière, le faire, de manière déguisée. Donc, il y a un besoin de moderniser la loi sur l'information et la communication autour des campagnes électorales.
Un mot sur ce que sont ces fake news, parce que en réalité, déjà, on sait souvent, il y a des faits, mais il y a aussi des débats sur les faits très souvent. Donc, on ne sait pas trop au fond pourquoi ce fait est juste et celui-là ne l'est pas. Ensuite, souvent, ceux qui diffusent les fake news News sont des élus eux-mêmes, alors qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'autres. On peut avoir un avis différent sur l'information qu'ils transmettent. Troisièmement, on a constaté, notamment aux États-Unis dans le débat autour de l'élection de Donald Trump, que l'essentiel des Facebook, des fake news sur Facebook étaient en réalité des publicités, donc des contenus sponsorisés. Ce qui veut dire que si on veut lutter contre les fake news, c'est pas un problème d'information, c'est d'abord et avant tout un problème de régulation de la publicité. Est-ce que la loi, elle fait pas fausse route un peu sur ces trois sujets?
Déjà, en France et aux États-Unis, on n'est pas du tout sur le même système. Les moyens dépensés par le système électoral américain pour faire de la publicité sur à peu près tous les supports auxquels elle a le droit, ce qui est pas le cas en France, est complètement disproportionné. Surtout quand on ramène au nombre d'électeurs américains. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout sur le même sujet. L'intérêt de la loi, c'est qu'elle essaye d'intervenir le plus tôt possible sur quelque chose qui va être considéré comme une fake news à un moment donné. Et justement, le moyen d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat sur le fait qu'elle soit juste ou pas juste, c'est d'éviter qu'elle se propage. Parce qu'après, elle s'amplifie, elle se modifie, elle est polyforme.
Oui, mais si c'est un propos de Jean-Luc Mélenchon que moi je vais pouvoir considérer comme une fake news, ou un propos de Marine Le Pen que je vais pouvoir considérer comme une fake news, pourquoi est-ce qu'il faudrait la supprimer si on veut être objectif?
Je pense qu'il y a un devoir particulièrement en politique d'essayer d'avoir un discours de vérité et pas d'être sûr.
Mais on sait très bien que c'est pas le cas. Un homme politique presque par sa nature.
Non, mais il y a vérité.
C'est un intellectuel qui ne pense pas selon une formule célèbre.
Il y a vérité et vision. C'est pas pareil de balancer des informations qui sont totalement erronées, fausses et qui sont factuellement fausses faire des mensonges, des promesses ou des choses qui peuvent être crues par celui qui les entend.
Elliot Lepers sur ce sujet.
Moi, depuis un mois, je m'amuse à écouter quand je peux les interventions des membres du gouvernement et à noter ce qui est faux. 2, 3, 4 fois par semaine, il y a des informations plus ou moins graves qui sont fausses, tenues par des membres du gouvernement, qui sont factuellement fausses. C'est pas une question d'interprétation.
Et donc on va les supprimer leur.
Mais voilà,
leur tweet.
C'est ça la question. C'est que c'est pour moi c'est très grave que des personnes qui représentent l'État utilisent de manière plus ou moins consciente, on peut leur donner le bénéfice du doute, des informations qui sont factuellement fausses.
Mais est-ce que c'est pas finalement souvent les fake news des jugements, même s'il y a bien sûr des catégories de fake news sur l'antisémitisme ou autre sur lequel on sera tous d'accord, malgré tout, est-ce que beaucoup de ce débat, c'est pas une question de jugement?
Quand Julien de Normandie dit qu'il y a 50 SDF en Ile-de-France,
c'est une erreur.
C'est fréquent
c'est
intéressant.
Non, mais c'est malhonnête d'abord parce que Julien de Normandie est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement
sympathique
sincère,
et gentil, etc.
Non, sincère, pas sympathique et gentil, mais vraiment sincère dans sa démarche.
Oui, mais d'accord, mais c'est une fake news, c'est une information qui est fausse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit supprimer son compte
pour expliquer ce qu'il voulait dire? Donc, enfin, Julien, donnons-lui qui s'engage.
Au-delà de cet exemple, on voit bien le problème. En plus, vous annoncez un nombre de chômeurs, vous savez bien qu'il y a des dizaines d'experts qui sont en désaccord sur ces nombres de chômeurs, parce que selon les comptes, etc., les A, les B, les C, etc. Donc comment est-ce qu'on définit une fake news?
De façon naturelle, les choses vont se concentrer sur les choses importantes. Je veux dire, si on prend le cas des chômeurs, non pas que c'est pas important le nombre de chômeurs, parce que sinon ça va créer une polémique, c'est pas ça le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui vont vous dire, bah non, c'est pas 9,5, c'est 12,5, parce qu'ils ont oublié d'enlever les ceci et cela. Mais la réalité, c'est que la notion de fake news et ce type de loi va s'appliquer sur des choses particulièrement graves, particulièrement dangereuses et sur lesquelles le juge va pouvoir intervenir. Un des sujets importants sur la loi, et qui est quand même c'est ce dont on parle pas assez, c'est aussi la notion d'espace-temps. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre en place des procédures, mais en quelle vitesse tout ça va se mettre en place? Parce que l'important pour intervenir sur une fake news, c'est la rapidité d'exécution. S'il faut lancer une requête auprès du juge qui prend des mois et des mois, je pense c'est un sujet.
Pour terminer, une question par rapport à un article publié cette semaine en Science, basé d'ailleurs sur une étude du MIT, en particulier du Media Lab, qui révèle que les fausses informations se propagent plus vite, beaucoup plus vite que les vrais, et que ces fake news sont essentiellement politiques. Est-ce que légiférer, si on veut être optimiste, peut inverser cette tendance, Elliot Lepers?
Les fake news, elles alimentent une forme de vision de la société et de récit de la société, et elles viennent conforter cette idée-là. Et donc, le problème, il est plutôt pour moi une question de pluralisme de l'information, une question d'éducation, une question de savoir vérifier ses sources. Et c'est plutôt dans la formation des personnes qui reçoivent les informations et qui les traitent et qui les comprennent ou pas que se joue l'enjeu de ce sujet-là. C'est pas une centralisation de cette information-là qui va aller supprimer au cas par cas des informations et parce qu'ils sont déjà dupliqués des dizaines de milliers de fois qui va permettre d'endiguer cette situation. Il y a toujours eu des rumeurs, il y a toujours eu des fausses informations. Aujourd'hui, elles peuvent se propager extrêmement vite. Mais l'enjeu, c'est que on forme les personnes. Il y a des études qui montrent que plus de 50% des utilisateurs adultes de Facebook ne savent pas faire la différence entre un contenu organique ou sponsorisé. L'enjeu, il est là. Il est de faire la différence.
Sponsorisé veut pas dire mensonge.
Enfin, bien sûr. Sponsorisé veut dire payer. C'est de la publicité organique.
C'est acheté.
On vous a atteint tout seul. Pour terminer, Gaël Duval, finalement, Tchernobyl, c'était déjà une fake news.
Exactement. Non, mais c'est ça où il faut se rappeler.
Pas Tchernobyl, mais le fait que le nuage.
Le Tchernobyl était une réalité, mais quand on se rappelle la manière dont ça avait été communiqué à l'époque par l'État et l'ensemble des organismes d'État.
À l'époque où Elliot Lepers n'était pas né.
Ou à l'époque Internet n'existait pas.
Et ça s'était arrêté à la frontière belge.
On nous avait raconté qu'un nuage radioactif s'était brutalement arrêté. Il n'avait pas son passeport, il n'avait rien. Il s'est arrêté à la frontière belge et il est reparti. Donc, dans l'histoire, les fake news, il y en a plein.
Enfin, il n'y a même pas besoin de Twitter ou de Facebook pour
Le récit historique de France aujourd'hui est composé d'énormes fake news qui font un récit national.
Bon. Eh bien, on en reste là pour ce soir. Merci infiniment à tous les deux.
Merci à
Gaël Duval, fondateur de jechange.fr, proche de La République En Marche. Elliot Lepers, entrepreneur, fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG. C'est facile à retenir comme ça. On en reste là pour ce soir. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.